Place publique.
Retour à la case départ pour la thématique de l'immigration de masse. On revient dans Place publique sur une actualité politique fédérale. L'initiative RASA a été retirée hier. Le texte visait à biffer l'article constitutionnel 121A sur l'immigration. Les Suisses ne se reprononceront donc pas sur la votation du 9 février 2014 et l'UDC ne compte pas en rester là. Faut-il interdire les smartphones des écoles ou plutôt apprendre à les utiliser et les intégrer à l'apprentissage? La question se pose de plus en plus en Suisse alors que la France a décidé de les bannir dès la rentrée prochaine. Dans la région, certains établissements ont fait le pas, d'autres ont mis en place des mesures de prévention. Les Suisses paient trop cher pour de nombreux produits importés. L'initiative Stop à l'îlot de cherté a été déposée avec plus de 107 000 signatures hier à Berne. Le texte réclame des prix équitables, une requête provenant de presque tous les milieux économiques. Quelles conséquences pour les consommateurs? Nous en parlons vers 18h50.
Jusqu'à 19h, Place publique. Audrey Fasnacht.
Bonsoir. Il n'y aura pas de nouveau vote sur le scrutin du 9 février 2014 contre l'immigration de masse. Le comité d'initiative RASA a retiré son texte hier. Ce dernier visait à supprimer de la Constitution fédérale les dispositions qui étaient entrées suite à l'acceptation de l'initiative de l'UDC, entre autres les fameux plafonds et les contingents. Retour au point de départ donc. Pour en parler, nous recevons en direct par téléphone le coprésident du nouveau mouvement européen suisse, François Schérix, et le conseiller national UDC bernois, Manfred Buller. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Alors, le retrait de cette initiative RASA, c'est une petite victoire pour votre parti, Manfred Buller?
Moi, je dirais que ce n'est pas un fait essentiel, parce qu'au fond, on est dans une situation où on a un article constitutionnel qui n'est pas mis en œuvre. Cette initiative demandait à le biffer, donc si... on avait pu revoter à ce sujet, on aurait finalement pu confirmer ou infirmer cette volonté du Parlement de ne pas mettre en œuvre une votation populaire. Mais ça nous laisse relativement froid parce que cette initiative avait un petit caractère antidémocratique.
Mais ce n'est pas un soulagement quand même de votre part?
Non, je dirais même qu'à la limite, ça aurait été très intéressant pour nous de faire cette campagne parce que je suis assez persuadé que nous aurions pu la gagner et que le peuple aurait... de ce fait-là, finalement, désavouer le Parlement de la manière dont il a mis en œuvre l'initiative.
Alors, le comité de cette initiative, RASA, indique que malgré tout, le but principal a été atteint, à savoir le maintien des accords bilatéraux avec l'Union européenne. Vous partagez cet avis, François Schérix? L'objectif principal est atteint?
Oui, écoutez, d'une certaine manière, on a assisté à une forme de normalisation. D'abord, normalisation avec l'Union européenne, puisqu'elle a constaté avec satisfaction que la loi d'application du Parlement n'attaquait pas le principe de la libre circulation des personnes. Et puis, normalisation aussi avec les Suisses qui n'ont pas soutenu un référendum contestant cette fameuse loi d'application. Mais pour autant, on reste, à mon avis, dans une situation très ambiguë parce qu'on a toujours cet article 121A qui attaque frontalement la libre circulation des personnes et on aurait pu éventuellement se prononcer sur ce sujet une nouvelle fois, ce qui n'aurait pas été du tout antidémocratique comme l'indique le conseiller national UDC parce que tout simplement, ce que le peuple a fait, le peuple peut aussi le corriger.
Manfred Buller, une situation ambiguë, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Schérix?
Non, je ne crois pas que la situation soit ambiguë. De mon point de vue, le vote de février 2014 a donné une majorité du peuple et des cantons pour inscrire cet article concernant la limitation de l'immigration de masse dans la Constitution. Il y est aujourd'hui. C'est le fait du souverain de notre pays. Donc le cas est tout à fait clair sur le plan constitutionnel. Ce qui est ambigu, c'est l'application qu'en a fait le Parlement, de par sa décision, qui est également une décision démocratique, mais que je regrette infiniment, parce qu'elle ne respecte pas la volonté du souverain. Et l'ambiguïté, elle se situe là. Et cette ambiguïté, ben, actuellement, on vit avec. On la regrette, évidemment, du côté de l'UDC. Il est probable qu'on va pouvoir revoter sur le sujet un peu différemment, avec l'initiative que nous préparons pour lever, cas échéant, cette ambiguïté.
Vous dites, François Schérix, que le problème, il est toujours pas résolu. Il pourrait l'être avec cette nouvelle initiative dont parle M. Buller?
Oui, ce qu'il faut voir, c'est que l'ambiguïté, elle a commencé en février 2014, parce que la démarche même de l'UDC n'était pas claire, hein, sur deux plans. Tout d'abord, le texte proposé à votation n'était pas complètement clair, puisqu'il attaquait la libre circulation des personnes, mais sans demander sa suppression. Et puis, la campagne également a été carrément mensongère, parce qu'on a laissé croire au peuple suisse qu'on pourrait à la fois avoir des mesures contre la libre circulation des personnes et maintenir intacte la relation bilatérale. Et le Conseil fédéral a bien dû constater qu'une négociation ne pouvait pas être ouverte dans ces termes. Et donc, on s'est trouvé dans une situation ambiguë où, au fond, le peuple avait voté quelque chose qu'il ne souhaitait pas forcément, parce qu'il a pensé qu'on pourrait maintenir les accords bilatéraux auxquels il est toujours attaché, tout en votant l'initiative. Alors, clairement, la nouvelle démarche de l'UDC va peut-être permettre de lever définitivement l'ambiguïté sur cette question.
Alors, on ne va pas refaire toute la campagne de cette initiative sur l'immigration de masse, mais Manfred Buller, est-ce que, du coup, le nouveau projet de l'UDC pourrait permettre de clarifier tout ça ?
Alors, oui, mais j'aimerais quand même constater ou surtout contester l'analyse de M. Chéry, parce qu'il était tout à fait clair dans toute la campagne, rien n'a été caché ou dit de manière mensongère. Dans le cas de la campagne de 2014, il était clair que ce texte n'était pas compatible avec la libre circulation des personnes telle qu'elle est aujourd'hui dans l'accord qui est conclu avec l'Union européenne. Ça n'a jamais fait l'objet d'un quelconque doute et je crois que le peuple a voté en connaissance de cause. Nous avions un délai qui devait être utilisé pour négocier et en cas de résultat négatif de la négociation, eh bien, il aurait fallu en tirer des conséquences politiques. C'est simplement ces conséquences politiques que la majorité politique de ce pays, de l'économie, n'a pas eu le courage de tirer. Maintenant, on va évidemment préparer cette nouvelle initiative et là, les choses seront tout aussi claires, si ce n'est encore plus, puisqu'il y aura finalement un délai qui sera d'une année pour rendre compatible en cas d'acceptation l'accord sur la libre circulation avec le texte de l'initiative. Et si tel n'est pas le cas, eh bien on aura la conséquence qui sera dans l'initiative qui devra mener à la dénonciation de cet accord. Donc ça sera clairement mentionné dans l'initiative, mais ça aurait dû être fait politiquement en cas d'acceptation, ce qui a été le cas en 2014, déjà la première initiative.
Alors cette initiative RASA donc a été retirée. On se retrouve presque au point de départ par rapport à l'après-9 février 2014. Mais François Chérix, qu'est-ce qui a changé quand même par rapport à il y a bientôt 4 ans ?
Alors, on a certainement gagné du temps, mais les questions restent ouvertes. Par contre, en effet, vous avez raison, la situation a quand même changé. Je crois qu'on a vu que les Suisses restent attachés aux accords bilatéraux et je pense que les Suisses ont compris que la libre circulation des personnes est le socle de ces accords bilatéraux. Et puis le climat a changé. Hein. Je crois que le Brexit est passé par là. On s'est rendu compte que même une grande nation comme le Royaume-Uni éprouve d'énormes difficultés à faire cavalier seul. Et je crois que le bon sens et le pragmatisme helvétique vont conduire le peuple à refuser les prochaines tentatives de l'UDC de casser nos relations avec l'Union européenne. Donc là, il y a un changement de climat, me semble-t-il, qui, sans vouloir faire de pronostics, nous permet d'être un peu plus optimistes.
Pour cette initiative RASA retirée, on se retrouve presque au point de départ, on l'a dit. Donc Manfred Buller, la balle, est-ce qu'elle est à nouveau dans le camp de l'UDC ?
Oui, je pense, parce que j'évoquais le Brexit, je pense qu'on verra, lorsque des solutions auront été trouvées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qu'on peut aussi réaménager la relation entre la Suisse et l'Union européenne d'une manière pragmatique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous n'avons pas de problème avec 99% des accords que nous avons avec l'Union européenne, mais que nous avons un problème avec un seul d'entre eux, c'est la libre circulation. Et je suis persuadé que là aussi, un chemin pragmatique devra s'imposer. Et ça sera peut-être celui de devoir résilier avec l'acceptation de l'initiative que nous préparons, la libre circulation, pour renégocier un paquet qui soit meilleur et surtout équilibré pour la Suisse, parce que nous avons un problème avec la population qui augmente trop dans notre pays. Nos infrastructures, notre économie ne pourra pas suivre longtemps à ce rythme-là.
Mais alors concrètement, finalement, en quoi cette initiative elle sera différente de celle de 2014 ?
Alors, fondamentalement, elle ne sera pas très différente, puisqu'elle visera à réaménager la libre circulation pour ne pas avoir la libre circulation totale, mais redonner le pouvoir à notre pays de dire combien de personnes doivent entrer par année en fonction des besoins de l'économie pour pouvoir s'installer en Suisse. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. C'est effectivement en contradiction avec un des principes fondateurs et importants de l'Union européenne, mais je crois que l'Union européenne doit comprendre qu'elle ne peut plus imposer ce genre de choses de manière uniforme sur l'ensemble du continent. Ça ne fonctionne pas. Le vote des Britanniques était aussi dirigé en grande partie contre les conséquences délétères de la libre circulation, l'a montré.
Alors, François Chérix, comment un mouvement comme le NOMES, dont vous êtes le co-président, qui est favorable à l'Union européenne, se profile face à tout cela, face à cette politique suisse ?
Alors, je crois que notre devoir va être de rappeler aux Suisses qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je crois que les Suisses sont des gens logiques, pragmatiques, qu'ils veulent une relation saine et équilibrée avec l'Union européenne pour des raisons économiques. Là, je note quand même que, s'agissant du Brexit, le Royaume-Uni a de grandes difficultés économiques déjà maintenant. Et il s'agira d'expliquer aux Suisses, et ils peuvent le comprendre, ils le savent, que la libre circulation des personnes fait partie d'un tout, d'un ensemble, qu'on ne peut pas accéder au grand marché européen sans en prendre l'entier des principes, et c'est un des principes fondamentaux. Et j'ai le sentiment que les Suisses le comprendront et qu'ils feront attention à ne pas provoquer une nouvelle situation de rupture avec l'Union européenne pour garder ces fameux accords bilatéraux qui ont fait notre prospérité et qui ne nous ont pas été imposés, comme le dit le Conseil national Buller, en fait, qui ont été faits à la demande de la Suisse après le refus de les... Et donc, je crois que les Suisses sont logiques et qu'il faudra travailler sur ce plan-là, leur volonté pragmatique d'avoir des bonnes relations avec l'Union européenne.
Un dernier mot peut-être, Manfred Buller, par rapport au calendrier, par rapport à cette initiative justement qui sera déposée.
Oui, alors l'initiative devrait pouvoir être formellement déposée et validée ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il est probable que la récolte des signatures aura lieu dans le courant de l'année prochaine. Donc, nous imaginons aller assez vite avec cela pour qu'on puisse se prononcer aussi dans un délai raisonnable pour ne pas devoir attendre 3 ou 5 ans pour ce nouveau vote.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation et bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Place publique.
Interdire ou prévenir les smartphones ont-ils leur place dans une salle de classe? Les avis divergent. En Suisse, chaque établissement est libre d'appliquer les règles qu'il souhaite concernant l'utilisation des téléphones portables, alors que la France vient de décider de les bannir. Dans la région, par exemple, l'école secondaire de Valterbi a décidé de mettre ses forces sur la prévention. À l'école primaire de Moutier, les smartphones sont interdits depuis bientôt 3 ans. Pour aborder cette thématique, nous recevons la directrice de l'école primaire de Moutier, Janine Gerber, bonsoir.
Bonsoir.
Et Julien Spinelli, médiateur et enseignant à l'école secondaire à Vic, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, peut-être Janine Gerber, expliquez-nous comment vous êtes arrivée à cette décision d'interdire les smartphones en classe à l'école primaire à Moutier.
Alors, la première décision, suite à certains abus en classe, a été ni vue ni entendue. Ça a fonctionné un petit moment, mais il est clair que le gros problème qui a surgi a été des photos, voire des films, qui ont été pris dans des vestiaires, dans des douches, à l'insu, évidemment, des élèves filmés, voire même des enseignants pris en photo ou filmés pendant les leçons. Forcément que ce genre d'image a une immense diffusion, une immense audience. Ces images restent permanentes sur les réseaux sociaux et il y a donc une perte de contrôle. Il a fallu donc prendre une certaine décision et la décision a été d'interdire formellement les téléphones portables dans toutes les classes.
Julien Spinelli, vous vous êtes penché sur cette thématique dans le cadre de votre formation de médiateur et notamment via un questionnaire réalisé auprès des élèves de 11e Marmos. Alors, à quelle conclusion êtes-vous arrivé?
Alors, les conclusions qu'ont pu être tirées de ce travail, c'était que les élèves avaient parfois des problèmes liés à l'utilisation des smartphones, respectivement des réseaux sociaux numériques, et que c'était dans le cadre de ma formation de médiateur scolaire. Et L'objectif, c'était de voir quelle action pouvait être entreprise par le médiateur pour prévenir ce genre de dérives liées au smartphone et à l'utilisation des réseaux sociaux numériques.
Donc vous avez opté pour la prévention plutôt. Comment ça s'est appliqué sur le terrain ?
Alors sur le terrain, on a décidé de sensibiliser aussi bien les élèves de l'école. On a ciblé les 9e années parce que c'est entre guillemets là l'âge légal à partir duquel on peut entrer sur les réseaux sociaux tels Facebook par exemple. Et on a aussi décidé d'impliquer les parents pour leur expliquer ce qu'ils avaient le droit de faire par rapport à ces réseaux sociaux. Et également les enseignants pour aussi les sensibiliser à la problématique et leur donner quelques pistes d'explication qui pourraient donner aux élèves qui se trouvent confrontés à ce genre de problème.
Prévenir au lieu d'interdire, vous n'y aviez pas songé à Moutier, Janine Kerber ?
Alors si, la prévention se fait, il y a énormément de prévention qui se fait à l'école de Moutier, l'alimentation, le sommeil, la non-violence, le harcèlement, les boissons énergisantes, la sécurité routière, la santé sexuelle, les dangers d'Internet et j'en pince, à tel point qu'il y a un nombre de leçons horaires impressionnantes qui tombent et à un moment donné, il y a quand même un stop. J'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit M. Spinelli et pour moi, il y a une différence fondamentale entre l'utilisation du smartphone et l'usage qu'on en fait. Alors, l'utilisation de tous les moyens multimédia, d'accord. On a d'ailleurs chez nous des salles Internet, des écrans interactifs. Les enfants sont régulièrement appelés à travailler sur les moyens informatiques. Ça, c'est de l'utilisation. Après, l'usage, est-il véritablement du ressort de l'école ? Où est-il de celui des parents ? De plus, les enfants n'ont absolument pas besoin de téléphone en classe. C'est totalement inutile.
Donc finalement, l'objet en soi, ce n'est pas forcément le problème, c'est plutôt son utilisation, Julien.
Son usage.
Son usage, vous dites,
voilà.
Madame
Kerber. Quand est-ce qu'on l'utilise et pourquoi ? Et donc, dès 8h du matin jusqu'à minuit moins le quart, son usage n'est absolument pas indispensable. Voilà, la récréation n'est pas faite pour tapoter, mais pour s'ébattre et puis prendre un petit goûter. Les leçons sont faites pour avoir des activités en groupe ou des travaux en solo. Donc, le smartphone n'a pas sa place en classe. Il ne sert à rien, strictement à rien. L'enfant dépose son téléphone à l'entrée de la classe et il le met dans une boîte, il le récupère à midi moins le quart. Tout comme l'enfant enlève ses chaussures ou sa casquette avant de rentrer en classe. Et si ça a soulevé un petit tollé de protestation de la part de quelques-uns au début de la mesure, maintenant c'est entré dans les mœurs et puis ça ne pose pratiquement plus aucun problème.
Les enfants ont-ils besoin de leur téléphone portable en classe, Julien Spinelli ?
Alors je suis à moitié d'accord avec vous, madame, c'est-à-dire que bien sûr qu'en classe, on n'a pas besoin d'être connecté aux réseaux sociaux numériques. Et ce qui se passe après dans les cours de récréation, ben, chez nous, ils ont le droit d'avoir les téléphones, d'utiliser les téléphones dans la cour et puis en dehors du bâtiment scolaire. Dans le bâtiment scolaire, ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Donc si un élève est surpris avec son téléphone dans les couloirs en train de faire quoi que ce soit, et il est confisqué pour un minimum 24 heures... En revanche, en classe, je ne dirais pas qu'il est indispensable, mais je ne dirais pas non plus qu'il est inutile. C'est-à-dire que parfois, on fait du travail de recherche. Et moi, je pense que c'est aussi important de pouvoir sensibiliser un élève que bah, son téléphone, ce n'est pas juste pour prendre des photos, faire des vidéos, puis mettre des likes. C'est peut-être aussi une source d'information, au même titre qu'un livre, qu'une encyclopédie. Donc, je pense que dans certains cas, on peut avoir une éducation aux médias. Et ces médias, ils les ont dans leur poche. Il y a une étude menée par l'Université des sciences appliquées de Zurich qui dit qu'il y a 99% des adolescents qui ont un smartphone. Donc c'est une réalité. Et à mon sens, il vaut mieux apprendre à bien l'utiliser plutôt que de dire on ne s'en occupe pas. Je voudrais encore ajouter que ce n'est pas que le travail de l'école, c'est aussi le travail des parents. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place cette soirée de prévention avec les parents. Mais notre plan d'études, le PER, il y a un point éducatif dedans. Et à mon sens, mais je parle vraiment à titre personnel, c'est à mon sens, on doit pouvoir avoir une éducation aux médias et le smartphone en fait partie aujourd'hui.
Janine Gerber, les smartphones comme source d'information, vous, ça ne vous parle pas ?
Alors, pas véritablement. La différence, c'est que, voilà, nous, on a des enfants de première à huitième, donc on s'arrête à l'âge de 12 ans. Monsieur Spinelli parle d'élèves du SCO des Reins, donc il y a une petite différence. Des enfants d'école enfantine ou de troisième, quatrième, Armos, ont de la peine à l'utiliser pour des recherches. On fonctionne avec le père, il y a des tablettes, on a des salles informatiques, on a tout ce qu'il faut. Des étudiants de l'HEP font du co-enseignement chez nous et donnent des leçons systématiques. Donc les leçons aux médias n'est surtout pas mise de côté, mais le smartphone ne nous sert pas. Il ne sert absolument à rien, sauf à déconcentrer certains enfants, il est clair, ou justement à prendre des photos, à faire des films indus et qui peuvent porter préjudice à d'autres enfants. Voilà. La mesure qui a été prise a été faite en total accord avec la commission scolaire. Donc voilà, on n'a pas de souci à ce niveau-là.
Est-ce que de nos jours, on peut vraiment se passer d'intégrer la technologie à l'intérieur des classes d'école ?
Non, non, absolument pas. Mais elle est la technologie, elle est intégrée. Chaque semaine, les enfants vont en salle informatique ou travaillent sur tablette. Chaque semaine, ils ont du travail avec les multimédias. Il n'y a aucun souci, ils le font. Mais ils le font autrement qu'en utilisant leur appareil proprement dit. Voilà. Ils le font sous le contrôle d'un enseignant qui est formé pour ça. Donc on ne l'écarte pas, absolument pas. Elle est régulée d'une autre manière.
Alors à l'école secondaire à Vic, donc les smartphones ne sont pas interdits. Comment ça se passe dans le quotidien, Julien Spinelli ?
Alors je vais juste rajouter que je suis totalement en accord avec Madame Gerber, c'est-à-dire que on n'a pas le même public. Donc au niveau de la régulation, je pense que si j'avais été enseignant en primaire, j'aurais pas toléré des smartphones en classe ou même dans les couloirs. Dans la vie de tous les jours à l'école secondaire du Valterbie, donc c'est on va pas l'utiliser tous les jours non plus. Moi, je prends un exemple, je suis enseignant en géographie, et si on doit faire des recherches un petit peu plus pointues, alors certes, on a des atlas en classe, on a des moyens de référence, il y a un ordinateur pour l'enseignant, mais si un élève, il a besoin d'aller chercher une information pour un travail ou pour compléter un dossier, de nouveau, sous le contrôle d'un enseignant, donc moi, je ne vais jamais quitter la classe et puis dire aux élèves, vous allez utiliser ça comme vous voulez, je fais le parallèle avec la télévision. Quand j'étais à l'école il y a une quinzaine d'années, il y avait des télés en classe. Jamais un enseignant nous a dit « Vous regardez ce que vous voulez à la télé ». Donc c'était régulé. Et là, je pense, mais de nouveau, je fais bien la distinction entre le primaire et le secondaire 1, que dans certains cas, pas dans chaque leçon, ça arrive peut-être, je ne sais pas, deux, trois fois dans un semestre. Je n'ai pas fait de calcul précis. Moi, je m'autorise le fait de dire oui à un élève, ok, tu l'utilises, et puis je contrôle avec eux ce qu'ils vont voir, et puis ils doivent me montrer ce qu'ils sont en train de faire là-dessus.
Et le fait que ça ne soit pas interdit, il n'y a pas eu trop d'excès non plus, à usage plutôt personnel ?
Alors, pas à ma connaissance. Donc, c'est nouveau, pareil, c'est les interdits, pas interdits. Est-ce qu'un élève, en cachette-t-il le sort, il le regarde ? Ça, on ne peut pas tout vérifier. Mais il n'y a pas eu, pour l'instant, on touche du bois, il n'y a pas eu de cas graves de mauvaise utilisation des smartphones à l'école.
Madame Gerber, vous avez parlé plusieurs fois, Julien Spinelli également, de la différence d'âge. Donc, oui. Julien Spinelli avait tendance aussi à aller dans votre sens par rapport à l'école primaire. Est-ce que si vous étiez plutôt enseignante ou directrice d'une école secondaire, vous pourriez également aussi plutôt plus prendre ça en considération ?
C'est fort possible, c'est fort possible. Mais avec des enfants de 8, 9 ou 10 ans, le smartphone ne sert pas véritablement à des recherches. Ce sont des communications régulièrement sans intérêt, des photos, de la musique, voilà. Ça reste à ce niveau-là. Donc ça change effectivement énormément la donne. Juste pour la petite histoire, à l'époque où j'enseignais encore, une élève de 6H a oublié de récupérer son téléphone le vendredi après-midi à 3h en quittant l'école. Donc il est resté en classe pendant tout le week-end. Moi, je ne savais pas qui il était, je n'ai pas pu faire de recherche. Et en arrivant lundi matin, voilà, elle l'a retrouvée. La question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu passé ton week-end? La réponse, sans aucun problème. Je pense que ça veut tout dire.
Merci beaucoup pour l'anecdote et merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Et bonne soirée, merci. Bonne soirée.
Merci.
Jusqu'à 19h, place publique. Audrey Fasnacht.
Et pour la troisième partie de cette émission, nous nous penchons désormais sur une initiative déposée hier à Berne avec plus de 107 000 signatures. Le texte « Stop à l'îlot de cherté pour des prix équitables » entend lutter contre les prix trop hauts en Suisse. Les initiants dénoncent les arnaques pratiquées en Suisse et demandent une modification de l'article constitutionnel sur la concurrence. Pour parler de cette initiative, nous recevons en direct par téléphone Didier Berbera. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes conseiller aux États neuchâtelois socialistes, membre également du comité d'initiative. Alors, Monsieur Berbera, pour commencer, qu'est-ce qui a abouti au dépôt de ce texte ?
Nous sommes rendus compte, je crois, et la population avec nous, que la Suisse était un îlot de cherté, c'est-à-dire que par rapport aux prix pratiqués à l'étranger, les prix pratiqués en Suisse étaient beaucoup trop hauts. Et nous avons essayé au niveau parlementaire de modifier la loi sur les cartels, par exemple. Ça n'a pas joué. Et donc la solution était de lancer une initiative populaire qui, comme vous l'avez dit, a abouti avec près de 108 000 signatures. Et je crois que c'était ce constat qui a fait que, pour finir, il y avait un ras-le-bol aussi de la population. Et je crois qu'il faut jouer aussi avec ce ras-le-bol et faire en sorte que cette initiative soit acceptée.
Mais alors comment en est-on arrivé à cette situation de prix faussé, entre guillemets, hein, en Suisse ?
Alors, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les producteurs étrangers connaissent un peu le pouvoir d'achat de différents pays et savent que la Suisse est un pays qui a un pouvoir d'achat assez élevé. Et donc, les prix pour le même produit sont différents suivant qu'ils sont vendus dans l'Union européenne. Même au sein de l'Union européenne, il y a encore des différences de prix. Ou en Suisse, on sait que, par exemple, au niveau des habits, on peut avoir jusqu'à 45% de différence. Au niveau des cosmétiques, 70%. Et on sait très bien que les producteurs étrangers estiment que la Suisse est en quelque sorte la vache à lait de l'Europe. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette initiative. Parce qu'il n'est pas normal que la Suisse paye des prix beaucoup trop hauts pour des produits importés. Et simplement, c'est les producteurs et les importateurs qui, en quelque sorte, amassent un bénéfice qui est inconsidéré, qui est abusif. C'est pour ça que l'initiative a été lancée.
Donc, si cette initiative est acceptée concrètement, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ?
Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord faire en sorte d'éviter les ententes cartellaires, c'est-à-dire le fait qu'une ou deux entreprises se mettent d'accord pour fixer des prix abusifs, bien entendu. Et on va faire en sorte aussi de permettre à ce que les Suisses puissent s'approvisionner sur le marché étranger sans être empêchés de s'approvisionner, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, un certain nombre de producteurs font en sorte d'interdire à leurs vendeurs à l'étranger d'approvisionner le marché suisse. On le sait, on l'a vu avec BMW par exemple, qui interdisent aux garagistes qui avaient une concession BMW en Allemagne par exemple, de livrer des voitures ou de vendre des voitures en Suisse pour permettre à ce que l'importateur suisse puisse vendre des voitures beaucoup plus chères, 30% plus chères par exemple.
Vous parliez avant d'une différence des fois allant jusqu'à 40, voire 70%. Quelle différence de prix pourrait-on admettre en Suisse par rapport à l'étranger ? Parce qu'il y a quand même une différence de niveau de vie.
Oui, alors tout à fait, une différence de niveau de vie. Alors je ne dis pas qu'il faut simplement faire le change et être exactement au cours du change. Je pense qu'on le sait, en Suisse, les loyers sont plus élevés qu'à l'étranger, les infrastructures sont plus chères, les salaires sont plus élevés, même si parfois dans certains secteurs les salaires sont trop bas à mon avis. Et simplement, on peut admettre à peu près une différence de 10 à 12, 14% par exemple, qui sont liés à ces coûts différents. Mais quand on en est à 40, à 70%. Pour les journaux étrangers, par exemple, on en est à 200% ou 250%, c'est-à-dire qu'un journal que vous achetez ou un magazine, vous achetez 2 euros en France voisine, vous le payez jusqu'à 5 francs, 6 francs, 7 francs, par exemple, en Suisse, et ce n'est pas normal, ce n'est pas admissible.
Donc ça veut dire, alors que concrètement pour les consommateurs, si l'initiative est acceptée, que le journal dont vous parlez reviendrait aussi à environ 2 francs 50 suisses ? On y arriverait
à peu près 2 francs, 2 francs. Oui, je pense. Simplement, ça signifie qu'il faut prendre des mesures, modifier d'abord la Constitution, l'article sur la concurrence, vous l'avez dit, et ensuite adopter une nouvelle loi ou modifier la loi sur les cartels pour faire en sorte d'éviter ces ententes, de forcer les importateurs à fixer des prix raisonnables.
Et si alors
on le sait,
allez-y.
On le sait, par exemple, il y a certains magasins, certains Denner, par exemple, on le sait, n'achète plus son Coca-Cola. Bon, c'est pas ma tasse de thé, c'est le cas de le dire, le Coca, mais n'achète plus son Coca-Cola en Suisse, chez le producteur suisse, mais l'importe depuis la Tchéquie, où en fin de compte les prix sont beaucoup plus bas, ce qui permet de faire des prix plus bas. Et c'est aussi lié à ces questions-là. Mais le but n'est pas de faire en sorte de faire mourir les importateurs, mais de faire en sorte que les importateurs pratiquent des prix raisonnables pour éviter justement ces ententes cartellaires et ces prix abusifs.
Mais alors s'il y avait une baisse de prix notable des produits importés, est-ce que ça n'induirait pas aussi une pression supplémentaire sur les produits suisses ?
Ben écoutez, d'abord, les produits agricoles ne sont pas compris dans cette initiative, dans la mesure où l'agriculture, vous le savez, en Suisse, est réglementée. Il en est de même des médicaments dont le prix est fixé par le Conseil fédéral, mais pour tous les autres produits, je crois qu'il est important que les produits, on importe, vous le savez, beaucoup de produits, il est important que ces produits puissent baisser et faire en sorte que, en fin de compte, on soit à peu près au prix européen. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent s'approvisionner en métal, par exemple, les entreprises du secteur des machines doivent acheter du métal en Suisse, métal qui est beaucoup plus cher qu'à l'étranger, et simplement, ça nuit aussi à la concurrence, à la compétitivité de la place économique suisse, parce que simplement, ils ne peuvent pas acheter la matière au même prix que leurs concurrents allemands, français ou italiens, ce qui fait que les machines sont plus chères, ce qui fait qu'on a plus de peine à les vendre.
Tous les acteurs semblent unis derrière ce texte. Le comité d'initiative est d'ailleurs représenté par des partis de tous bords, ainsi que plusieurs organisations. Vous êtes plutôt confiant ?
Oui, on est confiant. Alors simplement, vous le savez, l'initiative, d'abord, maintenant, elle a été déposée. Les signatures seront contrôlées. Ensuite, le Conseil fédéral a un délai pour examiner l'initiative, faire ce qu'on appelle un message, un rapport aux chambres fédérales, en concluant soit l'acceptation de l'initiative, soit au refus d'initiative, soit au fait qu'il vient avec un contre-projet direct, c'est-à-dire une modification aussi de la Constitution, mais dans un sens un peu différent de ce qu'on souhaite, indirect par une modification de la loi. Et ce sera un long débat. J'entends, je pense que cette question-là va encore animer la place publique suisse pendant quelques années, 3-4 ans avant qu'on trouve une solution. Vous savez, en Suisse, les choses sont toujours trop lentes, à mon avis, mais simplement, on consulte, on a deux chambres, on essaye de trouver des solutions qui soient des solutions de compromis. Et je crois que c'est aussi bien, même si c'est parfois trop long.
Alors nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Didier Berbera.
Je pense aussi, oui.
Bonne soirée, merci. Et nous sommes au terme de cette émission Place Publique. Merci à tous nos invités. Vous pourrez retrouver l'émission en intégralité sur la page web de l'émission, aussi en podcast sur nos applications RJB, RTNR, FJ. Dans un instant, le flash de 19h avec Alexandre Rosset. Très belle soirée à tout le monde.
Place Publique.